DW. Le journal. Carole Assignon.
17h en temps universel, une heure de plus ici à Bonn en Allemagne, d'où nous émettons. Dans l'actualité ce mardi 14 janvier 2020, les réactions après les conclusions du sommet de Pau sur le Sahel. Réaction notamment à l'annonce du renforcement de la force Barkhane. Le secteur public en grève en République démocratique du Congo. Les grévistes réclament une hausse de salaire et protestent contre le projet de prélèvement fiscal à la source. Et puis c'est confirmé, le gouvernement allemand a annoncé qu'une conférence internationale sur la Libye sera organisée dimanche à Berlin sous l'égide de l'ONU. Sur place en Libye, la trêve a été prolongée d'une manière indéfinie. Mais on commence d'abord avec le Flash Info présenté par Marco Volter.
Bonsoir à toutes et à tous, et vous venez de le dire à la une de l'actualité internationale ce soir, la Libye et les efforts internationaux qui se multiplient pour tenter de trouver une issue à la crise de pouvoir que traverse le pays. Des négociations se sont déroulées à Moscou entre les deux rivaux, à savoir le Premier ministre Fayaz al-Sarraj et le maréchal Haftar qui conteste le pouvoir à Tripoli par les armes. Les deux hommes ne se sont cependant pas directement rencontrés. Le maréchal Haftar a finalement refusé de signer formellement un accord de cessez-le-feu. En attendant, c'est une trêve fragile qui semble tenir en Libye et les discussions vont se poursuivre dimanche puisque l'Allemagne a donc annoncé aujourd'hui la tenue d'une conférence internationale à Berlin. La conférence se tiendra sous l'égide de l'ONU. Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj ont tous les deux été invités mais on ne sait pas encore s'ils répondront plaisant. Plus d'informations donc dans la suite de cette édition.
En Europe, le pacte vert ou Green Deal de la Commission de Bruxelles a été présenté aujourd'hui au Parlement européen.
Et parmi les chiffres forts, il y a un plan d'investissement qui pourrait atteindre les 1 000 milliards d'euros sur les 10 prochaines années pour financer la transition énergétique et parvenir à une neutralité carbone d'ici 2050. Le Green Deal est destiné à lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi à aider les gens à supporter la transition. C'est ce qu'a dit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en parlant notamment de régions en Europe qui sont encore très dépendantes du charbon. On écoute Ursula von der Leyen, c'était il y a une heure pendant sa conférence de presse.
Le fonds va surtout être là pour les hommes et les femmes qui vivent dans les régions les plus touchées par les changements, afin qu'ils puissent trouver de nouveaux emplois. Mais il va aussi servir à la recherche et profiter aux start-up et aux petites et moyennes entreprises. Nous voulons que le Green Deal européen soit notre nouvelle stratégie de croissance. Nous sommes à l'avant-garde et nous voulons aussi l'être à l'avenir. C'est pour cela que les investissements que nous ferons pendant cette décennie sont décisifs pour l'avenir de l'Europe.
Voilà, ce projet de pacte vert doit maintenant être négocié entre les États membres et le Parlement européen.
On passe au dossier du nucléaire iranien. Berlin, Paris et Londres veulent serrer la vis.
Ils ont en effet décidé de déclencher ce qu'on appelle le processus de règlement des différends qui est prévu dans l'accord sur le nucléaire signé par Téhéran en 2015. Pour faire simple, ce processus oblige toutes les parties à entrer dans une phase de pourparlers alors que l'Iran respecte de moins en moins ses engagements. Le pari est risqué puisque si les pourparlers n'aboutissent pas, cela pourrait porter un coup fatal à l'accord et mener au rétablissement des sanctions économiques de l'ONU contre Téhéran.
Et dans l'actualité un peu plus légère à présent, Marco, les nominations aux Oscars sont tombées et ne manquent pas d'attirer les critiques.
Oui, l'édition 2020, niveau diversité, peut mieux faire. L'actrice noire américaine Cynthia Erivo est la seule artiste qui n'est pas blanche à s'être frayée un chemin dans les nominations. Et globalement, les femmes sont à nouveau les grandes absentes. La liste des prétendants à l'Oscar du meilleur réalisateur est exclusivement masculine. Et pour rappel, c'est le film Joker qui part grand favori, puisque le film est nommé dans 11 catégories, dont le meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleur scénario.
On termine sur l'élection du mot le plus horrible de l'année en Allemagne.
Et ce mot horrible est désigné depuis plus de 30 ans par un jury d'experts de la langue allemande. Et roulement de tambour, c'est Klimahystérie cette année. Klimahystérie, un mot qu'on a souvent entendu en 2019 pour critiquer les débats sur le changement climatique en Allemagne, comme si le réchauffement était le résultat d'une psychose générale et non pas un réel problème. Klimahystérie, mot le plus horrible de l'année 2019.
À retenir donc. Merci Marco Volter. Il est 17h04 en temps universel.
DW.
Le sommet de Pau s'est refermé hier sur de nouvelles orientations dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer la force Barkhane qui compte 4500 hommes. Les présidents maliens, burkinabés, nigériens, mauritaniens et tchadiens et leurs hôtes du jour ont également convenu d'orienter davantage la lutte contre les djihadistes dans le Liptako-Gourma, la région des trois frontières. L'accentuation de la lutte contre l'État islamique au Grand Sahara fait également partie des engagements pris par la France et les pays du G5 Sahel. Alors comment l'opposition malienne réagit-elle à ces annonces? Les détails de Marama Doukane, notre correspondant au Mali.
Alaï Bokoum faisait partie des centaines de manifestants qui ont battu le pavé le 10 janvier à Bamako pour réclamer le départ des troupes françaises du Mali. Celui-ci est militant du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, une aile dure de l'opposition malienne. Si la question de la centralisation des efforts de Barkhane et des pays du G5 Sahel autour de la région des trois frontières, Alaï Bokoum évoque, je cite, une certaine manipulation du président français.
Non, je pense que les efforts n'étaient même pas éparpillés. Et la plupart des actions de Barkhane, c'était dans cette zone déjà. Donc le fait de le réaffirmer, de le dire comme ça, ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils étaient dans un désordre total. Et de toutes les façons, la présence française depuis le départ, nous, on avait compris que ce n'était pas utile, ce n'était pas à dessein. En tout cas, ce n'était pas pour le peuple malien, ni le sauver, ni pour sauver le Mali.
La région des trois frontières a enregistré ces derniers mois des centaines de victimes civiles et militaires. Les groupes terroristes y opèrent sans crainte. La priorité sera donnée à la lutte contre l'État islamique au Grand Sahara, comme l'a expliqué le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore lors du sommet de Pau. Sur ce point, Alaï Bokoum propose une solution locale.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de dire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qu'ils tiennent pour des islamistes, pour des djihadistes, pour des terroristes, c'est des gens avec lesquels ils traitent. Nous, on prône qu'il y ait les discussions et le dialogue direct entre Maliens. Il y a Dagali, c'est Malien. Amadou Koufa, c'était Malien.
Donc, il n'y a pas que les IGS.
Non, il n'y a pas que les IGS. Ils le disent comme ça, c'est pour un peu justifier leur présence. Et avant que la France n'intervienne, on avait dit que c'était ACMI.
Mahamadou Kane à Bamako pour la Deutsche Welle.
Et lors du sommet de Pau, la France a donc annoncé, je vous le disais tout à l'heure, l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer sa force Barkhane, qui devrait désormais plus travailler avec les armées de la région et peut-être avec l'appui des partenaires européens. L'ambassadeur du Tchad à Paris, Amina Bassidik, qui a pris part à cette rencontre de Pau, salue les décisions prises, mais rappelle que le Tchad, très présent militairement dans le Sahel, a besoin d'être soutenu pour maintenir son déploiement. Il est au micro de Kossi Vitiassou, notre envoyé spécial à Pau.
Mais je pense qu'avec les nouvelles décisions qui sont prises, la vapeur sera renversée. Disons, l'opinion commencera à espérer l'éradication du terrorisme. Il y aura, une action collective au niveau de là où le terrorisme frappe, mais sans perdre de vue la crise libyenne.
Et le Tchad aussi va augmenter le nombre de ses militaires dans la lutte contre le terrorisme dans la région?
Le Tchad, par principe, n'est pas contre. Mais le Tchad, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, même si son armée est la plus, disons, performante et la plus aguerrie. Mais il faut, disons, l'appui des partenaires, il faut que la logistique suive.
Naturellement, mais est-ce que vous allez augmenter le nombre d'hommes combattants?
Pour le moment, il faut quand même que les conditions soient remplies pour que, disons, les soldats, disons, tchadiens puissent se mouvoir. Donc, c'est un appel à tous les partenaires qui ont à cœur, disons, la lutte contre le terrorisme. Parce que vous savez que cette histoire de terrorisme, ce n'est pas seulement nous. Ça engage tout le monde. Peut-être que pas mal de gens qui ne réalisent pas cela. Mais si nous ne le combattons pas, peut-être qu'il y aura même des États qui vont disparaître dans la zone sahélienne et pourquoi pas même en Afrique. Effectivement, le Tchad, qui est un pays aux moyens limités, a besoin quand même de l'appui de la communauté internationale.
C'était l'ambassadeur du Tchad en France, Amin Abbas Sidik. Il répondait aux questions de Kossivi Tiassou. Et pour le général Babacar Gaye, ancien chef d'état-major de l'armée sénégalaise et ancien patron de la mission de l'ONU en Centrafrique, la décision de créer un commandement central pour les soldats de la force Barkhane et ceux de la force conjointe du G5 Sahel est une bonne chose. Cependant, il n'exclut pas qu'il y ait des difficultés d'ordre opérationnel. On l'écoute.
C'est une évolution qu'il faut saluer. On verra maintenant comment cela va être mis en œuvre. Mais vous savez, dans une coordination, il y a simplement de la bonne volonté. Il n'y a pas de contrainte. Et c'est ça le problème. Est-ce que nous allons arriver, dans le cas de la bande sahélo-sahélienne, à un commandement qui aura véritablement autorité sur les unités? Et, ou alors, est-ce que c'est simplement une coordination dans laquelle les gens vont faire preuve de bonne volonté, vont échanger du renseignement, mais chacun menant les opérations en fonction de ses analyses politiques, de ses sensibilités locales et également de ses moyens. Dans une coalition, et nous connaissons bien le fonctionnement des coalitions, il y a toujours une petite liberté que les membres de la coalition conservent. Si vous prenez même l'OTAN, on sait très bien qu'il y a dans l'OTAN les fameux caveats, où chacun dit voilà ce que je fais ou que je ne peux pas faire dès le départ. Et on l'accepte ainsi. Dans le cas de ce qui est envisagé au Sahel, je souhaite simplement que vraiment on dépasse la coordination et qu'il y ait vraiment, disons, unicité dans l'action. Nous attendrons de voir les résultats et pour l'instant, je crois que les populations seront contentes de voir qu'il y a un effort qui est fait dans la zone du Leptako-Gourma.
Je précise que le général Babacar Gaye est notre invité de la matinale demain, mercredi. Vous l'entendrez plus longuement sur d'autres décisions issues du sommet de Pau. Et puisqu'on parle de la lutte contre le terrorisme au Sahel, sachez que le groupe État islamique a revendiqué l'attaque de Chiné Gouder au Niger. Dimanche, les autorités nigériennes avaient revu à la hausse le bilan de cette attaque, passant de 21 soldats tués à 89. Cette attaque est survenue un mois après celle d'Inna atteste dans la région de Tillaberi, frontalière du Mali. Attaque qui avait coûté la vie à 11 soldats. En bref, encore au Burkina, 4 combattants terroristes membres d'une cellule du Front de Libération du Massina ont été interpellés la semaine dernière dans le Pony, c'est dans la province du Sud-Ouest, par les services de la police nationale. L'un des hommes arrêtés aurait pris part à l'enlèvement de 3 Burkinabés et un Chinois. C'était en novembre dernier.
Vous écoutez la DW.
Je vous en parlais dans le sommaire. L'Allemagne a annoncé qu'elle allait bien organiser dimanche une conférence internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU. Le sommet se tiendra en présence de chefs d'État et de gouvernement d'une dizaine de pays. L'Union africaine sera aussi présente. Les détails avec Reliou Koubakin.
Les deux hommes forts de la Libye, le premier ministre Fayez el-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, sont invités à la conférence de Berlin ce week-end. Une nouvelle importante, alors que le maréchal Haftar vient de refuser de signer un accord de cessez-le-feu qui avait été accepté par le gouvernement d'Union nationale. La guerre que se livrent les deux hommes contribue à entretenir le chaos dans un pays qui vit dans la guerre civile depuis la chute de Kadhafi en 2011. Sacha Pétiot, chef de mission de Médecins sans frontières en Libye, pointe du doigt une situation délétère dans le pays.
On s'occupe particulièrement des populations migrantes, puisqu'elles sont extrêmement vulnérables en Libye. Il y a un manque cruel de protection. On parle de trafic humain, on parle d'exploitation d'abus. Sur le côté de Misrata, où nos équipes sont présentes aussi, il y a eu pas mal de bombardements ces derniers jours. La Libye reste extrêmement fractionnée et divisée, avec une présence de milices très importante, ce qui fait que c'est extrêmement difficile à contrôler et à mener à bien des politiques au niveau national.
Selon Ulrich Delius, dont l'Association des peuples menacés est présente en Afrique du Nord, suit de près ce qui se passe en Libye, la situation est grave avec notamment l'afflux des réfugiés africains, ce qui inquiète l'Allemagne et l'Union européenne.
On peut presque plus parler d'un pays, mais il y a vraiment tous les problèmes qu'on peut s'imaginer.
Ulrich Delius doute cependant que la conférence de Berlin ait un réel impact sur la situation en Libye. Les intérêts de la première puissance européenne dans ce pays sont peu visibles, sinon inexistants. Car si l'Allemagne a besoin d'un gouvernement stable en Libye, Christian Tomuchat, professeur de droit public à l'université Humboldt de Berlin, estime que l'influence du gouvernement allemand est sans doute insuffisante pour faire bouger les lignes.
De quelle façon pourrait-on faire de la pression sur les partis politiques qui sont impliqués dans le conflit. Nous avons très peu de moyens d'influence et nous n'avons pas de très grandes relations commerciales et autres avec la Libye. Alors c'est très difficile.
La bonne nouvelle pour l'Allemagne reste toutefois que les pays influents tels la Russie, la Turquie ou encore l'Italie ont annoncé qu'ils seront présents à Berlin.
Et bonsoir Mireille Drone.
Bonsoir Carole, bonsoir à tous.
Alors la situation en Libye ne laisse pas indifférents nos abonnés sur les réseaux sociaux.
En effet, Issa de Tillabéri au Niger reconnaît que ces négociations ne sont pas du tout faciles, parce que quand deux forces se présentent comme leaders d'un même pays, c'est compliqué. Mais Manadou de Conakry espère que le maréchal Haftar finira par comprendre que seul le dialogue peut arranger tout le monde. C'est ce que souhaite aussi Delphine de Calavi au Bénin, qui souligne que dans cette guerre d'intérêts des partis en conflit, si l'un est négligé par l'autre, on tire sur tout et cela peut dégénérer à tout moment. Selon Dinga d'Angola, la chute de Kadhafi continue de peser sur la Libye. Les Occidentaux et les Américains ont donc tout intérêt à s'impliquer pour résoudre cette crise, car c'est leur ingérence qui a mis la Libye à genoux. En revanche, Cephas de Kinshasa pense, lui, que les négociations sur la Libye doivent être une initiative de l'Afrique. Un avis que partage Étienne de Porto Novo au Bénin. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités en main parce que les autres ne cherchent que leurs intérêts et à vendre notamment des armes aux Libyens, écrit-il. Seulement voilà, il y a un manque de volonté de nos dirigeants africains, regrette Étienne. D'après Ernest de Bukavu en RDC, pour que les négociations aboutissent, les deux parties doivent donc d'abord user de leur sagesse et se regarder les yeux dans les yeux en pensant à leurs semblables. Selon lui, c'est valable d'ailleurs pour tous les conflits en Afrique. Autrement, si les Africains continuent de se tourner vers les Européens, les guerres ne cesseront jamais en Afrique parce que chacun défend ses propres intérêts.
Merci Mireille. Et toujours au sujet de la Libye, malgré la situation sécuritaire instable sur place, près de 1000 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée ont été renvoyés vers le pays au cours des deux premières semaines de janvier. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, fin octobre, l'Italie a décidé le renouvellement d'un accord très controversé signé en 2017 avec la Libye. Cet accord prévoit d'aider financièrement et de former les gardes côtiers libyens pour bloquer les départs de migrants avec le soutien de l'Union européenne. On passe à présent à l'actualité en RDC. Les syndicats de l'administration publique et le gouvernement ont entamé des négociations pour éviter une grève générale des fonctionnaires. Les syndicats ont en effet lancé un ultimatum au gouvernement. Ils exigent l'annulation du projet de prélèvement fiscal à la source et dénoncent le non-respect par l'État de la promesse d'augmenter le salaire de base des fonctionnaires. Bonsoir Bob Barry.
Bonsoir Carole Assignon.
Alors vous avez joint les deux parties qui s'opposent toujours.
Oui. Nous avons d'abord pu parler avec le président de la Confédération syndicale du Congo, qui est également porte-parole des 600 délégués syndicaux de l'administration publique. Ceux-ci demandent au gouvernement de Kinshasa de repousser sa décision de prélever 15% sur les primes des fonctionnaires. Selon Fidel Kayingi, le salaire de base des fonctionnaires fixé à 80$ est trop faible pour être imposé, alors qu'un protocole d'accord signé entre les centrales syndicales et le gouvernement prévoit une augmentation à 100$, mais cette mesure n'est toujours pas appliquée, ce que dénonce le porte-parole des syndicats Fidel Kayingi.
Nous avons demandé au gouvernement, avant de retenir l'impôt sur les primes et les salaires des agents, qu'il nous dise dans ce qu'il paye aux agents, qu'est-ce que l'indemnité de logement représente, qu'est-ce que l'indemnité des transports représente et qu'est-ce que les allocations familiales représentent, parce que ces trois rubriques ne sont pas imposables. Alors que le salaire que le gouvernement congolais donne aux agents et fonctionnaires de l'État, c'est un salaire de misère. Ce qu'on donne à l'huissier aujourd'hui dans l'administration publique, ça équivaut à 80€.
Le président Félix Tshisekedi a demandé donc au ministre des Finances, du Budget et de la Fonction publique d'organiser un atelier de concertation avec les syndicats afin de trouver une issue négociée à cette crise. Mais la ministre de la Fonction publique, Yolande Ebongo-Bossongo, affirme que le prélèvement à la source de l'impôt sur les salaires des fonctionnaires est un point non négociable.
L'impôt est imposé à tout le monde. C'est une mesure légale prévue dans la Constitution et nous sommes appelés à respecter ce principe-là. Les membres du gouvernement payent l'impôt, les députés payent l'impôt et chaque citoyen congolais est appelé à payer son impôt. C'est à partir de ce moyen que nous pouvons relever tout ce que nous avons comme défi au niveau du pays.
Voilà, c'était la ministre de la fonction publique en République démocratique du Congo. Donc, il faut savoir que la menace de grève qui plane sur l'administration publique congolaise intervient à un moment où le régime de Kinshasa est épinglé sur sa mauvaise gestion des dépenses publiques, selon un rapport de l'Observatoire de la dépense publique qui a critiqué le manque de transparence dans les dépenses de l'État.
Merci Bob Barry, toujours au sujet de la RDC. En bref, au moins 18 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des combats entre l'armée congolaise et une milice à proximité d'une mine d'or dans l'est du pays. Plusieurs enfants seraient toujours portés disparus. Au Ghana, 34 personnes ont été tuées dans un accident de la route. Deux cars sont entrés en collision dans le centre du pays, dans la ville de Dompassé, à environ 200 km de la capitale Accra. Une quarantaine de survivants sont soignés à l'hôpital. Il y a eu près de 14 000 accidents de la route au Ghana l'année dernière, avec plus de 2 000 décès selon les statistiques officielles. Ces accidents sont principalement dus à des routes en mauvais état, souvent non éclairées, et à des feux de signalisation défectueux. Et on retrouve une nouvelle fois Mireille Drone pour parler de l'actualité en Guinée, des manifestations toujours contre le projet de nouvelle constitution. Aujourd'hui à Conakry et dans d'autres villes du pays. Et Mireille, vous êtes toujours en studio avec nous et vous avez recueilli des avis sur le sujet.
Oui, alors la série de manifestations entamées par le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, dénommée Résistance Active et Citoyenne, s'est poursuivie pour le deuxième jour consécutif ce mardi. Et selon guinematin.com, le mot d'ordre était partiellement suivi, contrairement à hier. Sur le tronçon Kossa-Inko 5, dans la banlieue de Conakry, la circulation était normale et les stations d'essence ouvertes, mais les magasins, boutiques et autres services étaient fermés. Les pick-up de la police et de la gendarmerie étaient aussi visibles le long des ronds-points et des carrefours. Après une première journée très agitée, les échauffourées continuent de plus belle ce mardi dans la commune urbaine de Labé, rapporte de son côté Guinée News. Déterminé à observer et à faire observer le mot d'ordre de désobéissance civile du FNDC, des jeunes ont remis les barricades sur l'ensemble des axes stratégique du centre-ville, jouant au jeu du chat et de la souris avec les agents du maintien d'ordre. Et Africa Guinée et Océan Guinée affirment que ce mardi, un jeune a été tué encore à Sonfonia après les deux morts en marge des manifestations d'hier à Labé et Conakry. Il s'ajoute donc au bilan d'au moins 20 civils et un gendarme tué depuis le début mi-octobre de la contestation durement réprimée par les forces de l'ordre.
Mireille, question, qu'en disent les abonnés sur les réseaux sociaux?
Et bien sur Facebook, Biams de Guinée se demande pourquoi personne ne semble s'intéresser à ce qui se passe en Guinée, où le président Condé semble vouloir briguer un troisième mandat. Nous sommes abattus comme des sauvages par ceux qui ont l'obligation de nous protéger, proteste Diakar You sur Twitter en réaction aux descentes de la police qui pourchasse les jeunes dans les quartiers. Le président nous assassine par haine et par mépris, affirme-t-il. Et Al Hussein, un autre tweeto, demande que ces sentences soient prononcées contre les coupables de meurtre pendant les manifestations. Pourquoi des morts et pas de justice dans un État qu'on appelle de droit, interroge-t-il. Sur Twitter toujours, Clément observe aussi qu'une fois de plus, des jeunes ont été tués alors qu'officiellement, les forces de l'ordre ne sont pas armées. Et lui aussi se demande où en sont les enquêtes sur les faits similaires passés. Sans sanction, cela continuera. Ne nous habituons pas à l'impensable. Cela doit cesser. Il faut sanctionner leurs auteurs et responsables, conclut-il.
Merci Mireille. 17h23 en temps universel. C'est l'heure à présent pour les auditeurs de jouer.
Participez à notre jeu concours. Testez vos connaissances sur les émissions de DW Afrique.
Et pour espérer gagner, il vous suffit de répondre à la question suivante. Comment s'appelle le magazine hebdomadaire présenté par Mireille Drone? Proposition à vous, les internautes, le club de l'auditeur et de l'internaute, ou encore merci pour votre courrier. Je précise que la date limite pour participer est fixée au 21 janvier. Bonne chance à toutes et à tous. En bref, à présent, des milliers de Tunisiens ont célébré aujourd'hui au centre de Tunis dans une ambiance festive le 9e anniversaire de la révolution qui a chassé du pouvoir le président Ben Ali à la suite d'un soulèvement populaire. La célébration de ce 9e anniversaire de la révolution intervient dans un contexte politique tendu, notamment après le rejet par le Parlement vendredi dernier du gouvernement proposé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Il revient désormais au président Kais Saied de avait signé un autre Premier ministre capable de convaincre les députés. Au Soudan, des tirs nourris ont été signalés à Khartoum dans deux bases des services de sécurité. Des employés ont lancé une rébellion pour rejeter des compensations financières dans le cadre d'un plan de restructuration proposé par les nouvelles autorités. Les tirs ont eu lieu sur une base du quartier de Riyad dans le nord de la capitale et sur la base de Khartoum Nord en banlieue de la capitale. Ces deux bases hébergent l'ex-service national de renseignement et de sécurité, devenu le service des renseignements généraux. On passe à présent à la revue de la presse des journaux allemands qui reviennent sur les aveux en demi-teinte de l'Iran, qui a donc reconnu après plusieurs jours de démenti que son armée avait abattu par erreur le Boeing 737 qui s'est crashé peu après son décollage de Téhéran. La revue de la presse, c'est avec Marco Voltaire.
Le scepticisme vis-à-vis de l'Iran est grand, commente la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui estime qu'après le démenti, puis le passage aux aveux sur le crash du Boeing ukrainien, les dirigeants iraniens ont fortement perdu en crédibilité. Ce comportement correspond à un régime qui mise sur la répression et la tromperie tout en réprimant la liberté d'expression. Alors le journal demande qui va encore être suffisamment naïf pour croire l'affirmation par l'Iran que le pays ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires. La Zeit Online se demande quant à elle comment la jeunesse mondiale vit ces tensions géopolitiques à l'heure des réseaux sociaux et du commentaire en 280 caractères. Pendant que les États-Unis et l'Iran s'enfonçaient dans la crise, les jeunes faisaient des blagues sur TikTok et Twitter. Est-ce parce qu'ils ne comprennent pas le sérieux de la situation ? Non, c'est tout le contraire, répond le jeune et célèbre blogueur et youtubeur allemand Rezo, pour qui l'humour sur les réseaux sociaux est plutôt la réaction sous forme de dérision au sentiment d'impuissance que vit une grande partie de la jeunesse qui politiquement ne connaît pas le sentiment de contrôle ou de pouvoir vraiment changer les choses. Un de ces conflits auxquels on assiste avec impuissance se déroule en Libye, où la signature d'un accord a finalement échoué. Le maréchal Khalifa Haftar a en effet quitté Moscou sans signer le cessez-le-feu accepté par son rival, le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Une conférence va se dérouler dimanche à Berlin pour tenter de sortir de la crise. Faire la paix est parfois facile tant qu'on n'y regarde pas de plus près, écrit la Tageszeitung, qui propose de s'intéresser à ce qui est écrit en tout petit, comme à la fin d'un contrat. Il n'y a pas de stratégie politique pour pacifier la Libye et la conférence de Berlin ne va pas faire naître un processus de paix. Ce ne sont pas Fayez al-Sarraj et le maréchal Haftar que l'on veut voir serrer la main, mais leur soutien respectif, à savoir le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. Et le quotidien rappelle que l'on voit bien à quoi ces arrangements ont mené en Syrie.
C'était donc la revue de la presse avec Marco Voltaire. Et avant de passer à l'actualité sportive, notez que la police a ouvert le feu ce mardi sur quelques dizaines de manifestants chiites dans le centre d'Abuja au Nigeria, la capitale fédérale donc du Nigeria, alors que les manifestants demandaient la libération de leur leader emprisonné depuis 2015. Ces heurts ont fait 5 blessés. Notez par ailleurs que la manifestation a réuni quelques dizaines de membres du MIN, comme il s'en passe régulièrement à Abidjan. On passe à présent à l'actualité sportive.
DW, le sport, Sophie Serbini.
Et pour la première fois depuis 2003 et le limogeage de Louis van Gaal, le FC Barcelone s'est séparé de son entraîneur en plein milieu de la saison. Ernesto Valverde paye les résultats décevants du club ces dernières semaines, mais surtout son absence de plan de jeu. Il est remplacé à partir d'aujourd'hui par Quique Setién, entraîneur peu connu hors d'Espagne, mais réputé dans son pays pour son ambition tactique, Sophie Serbini.
Son nom ne vous dit probablement pas grand-chose. Et pour cause, bien qu'il soit déjà âgé de 61 ans, Quique Setién n'a connu jusqu'à aujourd'hui que des équipes plutôt modestes. En presque 20 ans de métier, l'ancien joueur, qui a notamment disputé le Mondial 1986 avec la Rora, est passé par 6 clubs espagnols dont Santander, Las Palmas et le Betis Séville. Il a aussi entraîné pendant une saison la Guinée équatoriale. Son palmarès d'entraîneur est vierge, son plus grand fait d'armes, la 6e place obtenue par le club sévillan en Liga lors de la saison 2016-2017. À première vue, sa nomination sur le banc du club le plus riche du monde peut donc paraître surprenante. Et pourtant, lorsqu'on se penche d'un peu plus près sur les préceptes du natif de Santander, le choix des dirigeants barcelonais semble, si ce n'est logique, tout du moins pas si surprenant que ça. Passionné de jeux d'échecs, Quique Setién voit le terrain comme un laboratoire pour expérimenter afin de pratiquer le football le plus pur qui soit. Inspiré par Johan Cruyff, il croit au football de possession, à ce tiki-taka si cher aux supporters catalans. En 2018, Marc Bartra, qui évolue alors sous les ordres de Setién au Betis Séville, avait décrit le fil qui reliait Guardiola à son entraîneur. Dans ce Betis, j'ai retrouvé l'entraînement que je suivais avec Guardiola et Luis Enrique, avait ajouté l'ancien défenseur de Dortmund. Malgré son manque d'expérience dans les coupes européennes, Quique Setién apparaît donc comme un choix naturel pour le Barça, un club où l'identité de jeu est aussi importante que les titres. Le premier match de Quique Setién sur le banc de touche des Blaugrana se sera dimanche face à Grenade.
17h30 en temps universel, Sandrine Blanchard présente à présent Droits et Libertés.